Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Le curé Labelle en a longtemps rêvé. Plus de 230 km à travers lacs et montagnes. Un moyen de transport, certes, mais un outil indispensable à la colonisation. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, le petit train du Nord.
Quelles ont été les plus belles années du Petit Train du Nord?
De 1876 à aller jusqu'à 1945 environ, après la guerre.
Les gens qui faisaient du ski s'en servaient beaucoup?
Beaucoup. Ça a été très populaire. Alors, c'est-à-dire que ça m'a fait 12 mois par année.
Un extrait de l'émission La vie quotidienne, c'était à notre radio en septembre 1976. Sans lui, le Nord n'aurait jamais connu un tel développement. D'abord utile pour ravitailler les premiers colons, il sert aussi au transport du bois vers Montréal. Le petit train du Nord permet aussi l'émergence de lieux de villégiature, en plus de contribuer à la pratique des sports d'hiver. Avec lui, le ski prend son envol et les pays d'en haut deviennent un haut lieu du tourisme.
Moi, j'ai commencé en 1940.
En 1940.
Et j'ai pris ma retraite en 1980, 40 années sur le Petit Train du Nord et sur d'autres petits trains comme de
Bon, mais racontez-moi, on va surtout parler du Petit Train du Nord. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, le Petit Train du Nord?
Bien, le Petit Train du Nord, c'était une grande famille. Mm-hmm. Tout le monde, surtout l'hiver, c'était les trains de neige, les trains de ski.
Oui.
Alors, le monde montait Sainte-Agathe, Piémont, Mont-Roland, et puis... ça chantait, et puis, vous avez ça là?
Oui.
Ah bon, ben, c'est ça. C'est exactement ce que vous voyez là, là.
OK.
Excepté que...
Il y avait combien de personnes, à peu près, qui montaient?
Des dimanches soirs, qu'on était sur chaque train au-delà de 1000 personnes.
1000
passagers. Et on avait 10 trains qui descendaient le dimanche soir. On pouvait ramener de 10 à 15 000 passagers qui venaient faire du ski. Jusqu'à Sainte-Agathe, ils pouvaient monter jusqu'à Mont-Tremblant.
Mm-hmm. Est-ce que, avec tout le monde qui fêtait, là, puis qui prenait, est-ce qu'on avait le droit de prendre un verre d'abord?
Ben, oui, on avait le droit. On n'avait pas le droit, mais on en prenait, comme ça se prend encore aujourd'hui.
Voyons. On l'apportait.
J'ai vu arriver à Mont-Laurier, et puis le monsieur qui était pour ramasser, nettoyer le train, ramasser 5 gros sacs de bouteilles vides. Plus de bière que de Pepsi.
On imagine bien, donc, l'ambiance de fête à bord. Les souvenirs de Bruno Werner, ex-conducteur de train au micro de Jacques Boulanger. C'était à notre télé en novembre 1985. Alors, pour nous en parler, mon invité, Claude Martel, il est géographe et historien, président de l'Institut de recherche sur l'histoire des chemins de fer du Québec. Avec nous en studio, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, c'est un parc linéaire, hein, une longue, longue piste cyclable. C'était jadis un chemin de fer, un projet qui a été porté à bout de bras par le curé Labelle à l'époque. Pourquoi il y tenait tant?
Ben, d'abord, le curé Labelle, dans ses premières affectations comme curé, va se ramasser près de la colle, dans ce territoire-là, près de la frontière, et va réaliser toute l'importance de l'exode de la population canadienne-française vers les manufactures américaines. Et il veut véritablement contrer cet exode en misant sur la colonisation, notamment du nord de Montréal. Et pour lui, le nord de Montréal, c'est pas la région administrative des Laurentides actuelles, mais c'est les Laurentides, l'Abitibi-Témiscamingue, même l'Est ontarien, même le Manitoba. Donc, sa vision du nord, là, c'est beaucoup plus que la MRC des pays d'en haut,
oui,
comme un certain téléroman fait allusion.
Oui. Mais sa vision, c'était quoi? Donc, c'est un vaste territoire à peupler pour contrer l'exode?
Bien, absolument, parce qu'on a perdu, et imaginons, je le dis de façon très théorique, mais on serait probablement le double de la population du Québec s'il n'y avait pas eu cet exode-là actuellement. Alors, c'était majeur à cette époque-là. Et le curé Labelle, bien, est dans cette mouvance aussi très nationaliste de l'époque. Et il cherche un moyen, justement, de développer les arrière-pays des seigneuries. Il faut se rappeler que le régime seigneurial vient d'être aboli il y a une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, déjà, le Nord, donc tous les cantons du Nord, c'est le terme qu'on donnait un peu à ces territoires-là, bien, étant encore relativement peu développés, là, on commençait en 1850, pour vous donner une idée, à fonder des paroisses comme Saint-Adèle. Mmh. Alors, on n'est pas loin dans la colonisation de l'arrière-pays, là, au nord de Saint-Jérôme. Alors, le curé Labelle, lui, mise beaucoup sur les mines. les ressources naturelles, le bois. Également, il voit déjà le potentiel touristique à l'époque. Alors, il se dit qu'il y aurait possibilité dans les vallées d'établir des agriculteurs colons.
Ouais. Donc, bon, un territoire à développer, le chemin de fer comme outil de développement, hein, parce que pour lui, c'est vraiment ça, c'est la modernité, c'est ce qui va permettre d'ouvrir ce vaste territoire.
C'est ça. Et il y a une occasion, puis ça, il faut le souligner. Il arrive curé en 1868 à Saint-Jérôme. Et dès l'année suivante, les Montréalais, suite d'une longue hiver, ont plus de bois de chauffage en fin d'hiver. Et c'est là qu'ils voient l'opportunité politique, je vais le dire comme ça, de faire un certain sauvetage auprès des Montréalais. Et là, il va profiter de cette occasion-là pour faire réaliser aux gens que s'il y avait un chemin de fer à Montréal, qui relierait les Laurentides, ça serait un outil de développement. Et là, on va se ramener en 1872. Je pense que, pour vous donner une idée de la vision du curé Labelle, je vais vous lire un petit bout d'un discours qu'il a fait, justement, le 18 janvier 1872, lorsqu'un grand convoi de 80 traîneaux chargés de bois de chauffage s'en viennent vers Montréal. Et rendu à Montréal, voici son discours. Ce sauvetage permettra de contrer la pénurie de combustible qui sévit chez les plus démunis et de démontrer sans équivoque aux hommes d'affaires l'urgence de construire un chemin de fer pour coloniser le Nord et le relier à la métropole. Je sens que la province a besoin d'un chemin de fer dans le Nord et que nous devons ne reculer devant aucun sacrifice pour l'obtenir. L'immigration aux États-Unis nous dévore. Nos ressources restent inertes dans les entrailles de la terre. Notre bois pourrit sur le sol. Allons-nous périr au milieu de l'abondance? Nous avons besoin d'un grand tronc dans le Nord. C'est ainsi que nous pourrons devenir plus tard les rivaux des Anglais et des Américains dans le commerce et dans l'industrie.
Ah oui, il y a tout là-dedans. Sa vision, son discours nationaliste, l'idée de freiner l'exode et puis éventuellement, qui sait, de concurrencer les Américains au Sud. Mais là, bon, ça passe par le financement public et privé. Comment il va convaincre, justement, les autorités de financer ce projet-là?
Voilà l'ost. Ouais. Tous les chemins de fer ont été construits à cette époque pour aller surtout vers les États-Unis, vers l'Ontario, où il y a des financements qui viennent de Londres en bonne partie, qui viennent par les grands capitaux anglais. Mmh. Les capitaux anglais ne voulaient pas financer les choses dans la rive nord de Montréal parce que pour eux, il n'y avait pas d'avenir là. Alors, c'était le gouvernement du Québec qui a fait probablement son premier partenariat privé. Son premier PPP à l'époque, en mettant l'investissement qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on va donner à une compagnie de chemin de fer qui va s'appeler la Montreal Northern Colonization. Tout est en anglais à l'époque, donc sont traduits chemin de fer de la colonisation du nord de Montréal. Le gouvernement va garantir un maximum de 5 000 $ du mille. C'était quand même un assez bon financement à raison d'à peu près 70 % des coûts de construction du chemin de fer.
Oui. Tout ça, ben, entre autres, grâce à... Bon, il a un pouvoir de persuasion aussi, le curé Labelle. Hein, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a des contacts politiques, évidemment. On va l'écouter ici. C'est tiré justement des belles histoires des pays d'en haut. 29 septembre 1967.
Vous, mes amis, mes frères, je veux vous parler sérieusement. Je me demande des fois si j'ai bien fait de me battre pour mon chemin de fer.
Poule au noir, on est ici pour mourir avec vous, lâchez pas.
Ben, puis surtout, je regrette rien, monseigneur.
On est là pour vous suivre.
Merci. Vous autres, vous me comprenez, vous m'aimez. Comprendre, c'est s'aimer. Je veux vous dire qu'au moment où je vous parle, j'ai la plupart des politiciens contre moi, contre mon idée fixe, le chemin de fer.
Laissez-les donc faire, les politiciens. On dirait qu'ils sont là pour mettre les cartes pour embrouiller tous les problèmes.
Et les politiciens, ils peuvent pas comprendre un prophète comme vous, M. Curé.
Je pense pas être têtu, une espèce de fou. Mais pourtant, il me semble que j'ai raison.
Oui, vous avez raison, monseigneur, certain.
Ça me fait de la peine pour ceux qui comprennent pas. Les politiciens, les premiers. Mais c'est par là que je m'en vais, vers la terre promise. Mon chemin de fer avant 5 ans sera rendu aux chutes aux Iroquois.
Je veux vous dire que le gouvernement fédéral accorde enfin un octroi.
Bravo!
Vous serez tous bien payés pour votre bon travail.
C'est un extrait, bien sûr, de la télésérie Les Belles Histoires des Pays d'en Haut avec le curé Labelle. Puis c'est vrai que la construction va aller vite, hein? En trois étapes, là. Ça se fait pas d'un coup, évidemment.
En fait, quand le gouvernement prend ça en main, il y a une crise économique majeure qui se déclare et tout est arrêté. Il n'y a plus de financement. Et c'est là que le gouvernement va redonner aux promoteurs privés la construction du chemin de fer en partageant les bénéfices avec lui, pour permettre justement qu'en 1876, le 16 octobre pour être précis, qu'un premier train régulier opère entre Hochelaga et Saint-Jérôme.
Donc le train partait de là pour se rendre à Saint-Jérôme. Premier tronçon,
premier
par la suite.
1876. Il faut attendre en 1891 pour voir le prochain tronçon. Ce tronçon-là, qu'on va appeler la Montreal and Western Railway, va être tout simplement loué par le Canadien Pacifique. On va faire ça donc dans cette étape-ci. Et en 1892, on atteint Sainte-Agathe, 1893, Labelle, ou ce qu'on appelait la chute aux Iroquois à ce moment-là.
Ah oui, donc
voyez-vous,
ça.
On est encore très loin de Mont-Laurier.
Ouais.
Et c'est une troisième compagnie, la Northern Colonization, le chemin de fer de la colonisation du Nord, qui, lui, va, à partir de 1903, arriver à l'Annonciation. En 4, il va arriver à Nominang et en 9, à Mont-Laurier. Et là, ben, pour des raisons évidentes, on devait continuer jusqu'à Ferme-Neuve et même contourner ce qui va devenir le réservoir du Bascatong pour se rendre vers Amos.
Ah oui, jusqu'en Abitibi. Donc.
Oui, c'était prévu de se rendre jusque-là, mais déjà, à la fin des années 10, Première Guerre mondiale, suivie d'une reprise, et en 1920, on commence à plus être certain de continuer le chemin de fer parce que l'automobile, déjà, semblait vouloir dire. Il y avait déjà un chemin de fer qui était rendu en Abitibi en passant par la région de la Tuque et tout ça. Donc, ça va mettre fin au projet assez radicalement. On devait faire un petit bout pour relier Maniwaki. Ça s'est pas fait également. Alors, c'est un peu désolant parce que ce chemin de fer-là était appelé à être finalement un grand tronc, comme l'avait dit dans son discours le curé Labelle, donc une voie qui aurait relié Montréal en ligne droite jusque dans le nord de l'Ontario et même l'Ouest canadien.
Oui, mais quand même, ça part de Montréal jusqu'à Mont-Laurier, ce qui n'est pas rien, hein? C'est plus de 220 kilomètres. Le train, bon, il sert d'abord à quoi? À la colonisation, à amener du monde ou il sert à l'industrie du bois?
D'abord, c'est un chemin de fer de colonisation. Lorsqu'on arrive au nord de Saint-Jérôme en 1891, on est à ce moment-là dans la colonisation des paroisses près de Mont-Laurier. Pour vous donner une idée, quand le chemin de fer arrive à Mont-Laurier, la population double dans l'année qui suit.
Ah oui.
C'est pour vous donner une idée de l'efficacité quand on parle de colonisation à ce niveau-là. Alors, oui, ça a atteint son but. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, définitivement, les enjeux de colonisation sont plus là. Et ce qui presse déjà depuis longtemps, c'est les ressources naturelles. C'est véritablement là-dessus, dans les Laurentides, j'ai pas besoin de dire qu'il y avait du bois. C'était la ressource principale qu'on va exploiter pendant longtemps. Mais il y avait aussi des petites mines à droite et à gauche. Rien de majeur, mais quand même suffisamment localement pour faire fonctionner des petites entreprises locales, puis alimenter le train et tout ça. Assez rapidement, on va se rendre compte qu'il y a un potentiel touristique. Le curé Labelle l'avait déjà vu. Sauf que ça va se faire plus vite que ce que lui avait estimé. Et je vous donne un petit peu des chiffres, ça va tout vous donner la situation. Début 20e siècle, une municipalité comme Sainte-Marguerite avait déjà 530 chambres d'hôtel.
Ah oui.
Saint-Adèle, 210. Saint-Jovite, 270. Mont-Tremblant, qui n'avait pas le grand centre de ski qu'on connaît aujourd'hui, était déjà à 140.
Au début du 20e, donc.
Oui, oui, 1907, 8, 10, là, on est là-dedans. Alors, on a véritablement déjà un phénomène touristique dès l'arrivée du train qui, dans les 20 ans qui suit, prend une proportion véritablement majeure.
Oui. Bon, on comprend qu'il y a là un secteur de villégiature intéressant, un pays de lacs et de montagnes, hein, donc oui, puis le ski, parce que là, on y arrive. Hein. Le petit train du Nord, c'est aussi les trains à neige, c'est peut-être l'aspect le plus connu, parce que le plus populaire. Alors, comment se développe la pratique du ski dans les Laurentides?
C'est un Norvégien qui s'appelait Jack Rabbit.
Oui,
c'était son surnom,
ben oui,
en fait.
Oui.
C'était pas son vrai nom, M. Johansson. Lui habitait à Shawbridge, faisait du ski de fond, parce qu'à l'époque, le ski alpin, le ski de fond, c'était comme un peu la même chose. Et Jack Rabbit réalise déjà, parce qu'il avait aménagé un sentier qui partait de Tremblant jusqu'à Shawbridge. Imaginez-vous donc, il l'appelait la Maple Leaf. C'était le nom du sentier. Et en voyant passer le train, il dit, « Ben voyons, Si on est capable de relier toutes les gares au sentier, les gens de Montréal vont venir faire du ski dans le sentier. C'est tout simplement par ce hasard, entre guillemets-là, en voyant passer un train qui décide de développer ce concept-là, qu'on va appeler les trains de neige.
Et mais ils partaient de où à Montréal, les skieurs?
Les skieurs partaient de deux gares. Quand oui. le Canadien Pacifique achète le petit train du Nord, en 1882, lui fait débloquer la voie ferrée pour entrer à Montréal, au coin de Biry-Notre-Dame, la gare d'Alousie. Mm-hmm. La gare d'Alousie existe toujours, mais est devenue rapidement trop petite. On va bâtir la gare Vigée en 1997. Donc, tous les trains qui allaient dans les Laurentides, comme c'était des francophones, partaient de la gare Vigée, partaient de l'est de Montréal. Quand les trains de ski vont commencer, comme les skieurs et les villégiateurs étaient surtout des anglophones, bien, on va commencer à faire partir des trains de ski de la gare Windsor.
Ah oui, gare centrale. Donc.
Alors, il y avait deux gares à Montréal, une pour les francophones, une pour les anglophones.
Ah oui, et que les anglophones sont plus riches, c'est eux qui profitent de la villégiature et qui partent
voilà,
avec leur ski. Comme
parce que j'ai pas besoin de vous dire que dans la clientèle ferroviaire qui allait dans les chalets de villégiature des Laurentides, c'était au gros, en grande majorité des anglophones. Alors, petit à petit, la gare Windsor va prendre de plus en plus d'importance dans les trains de ski, si bien qu'en 1951, on ferme littéralement la gare Vigée pour toute concentré à la gare Windsor.
Oui.
Dans les années 20, on a à peu près 11 000 voyageurs par année sur le petit train du Nord. À peu près au milieu des années 30, en pleine dépression économique, les trains de ski, ça fait déjà 7-8 ans qu'ils roulent, on est rendu à 14 500 passagers par année.
Ah oui, hein?
Alors, vous voyez déjà, en pleine crise économique, l'impact qu'a les trains de ski sur le développement du ferroviaire au niveau du petit train.
Bon, c'est comme ça que se développe le ski l'hiver, le tourisme aussi dans les Laurentides. On en parlait déjà plus tôt au début du siècle. Hein, la baignade, les randonnées durant l'été, là, j'imagine ça aussi, le train du Nord pendant l'été, c'est populaire.
Absolument, la villégiature va jouer pour beaucoup, mais c'est effectivement l'hiver qui est la grande saison. L'été, ça sert moins un peu.
Les infrastructures aussi qui se développent, hein, la villégiature dans tous ces endroits, long du petit train du Nord, c'est ce que nous dit Claude-Henri Grignon, célèbre auteur des belles histoires des pays d'en haut.
Mais ici, dans notre pays, les paysans vivent surtout du tourisme. Mm-hmm. C'est une industrie qui rapporte beaucoup. Depuis le mois de décembre de cette année, la veille de Noël, à venir aujourd'hui, le 18 mars, il est venu par le train, par la compagnie Chemin Fer Canadien Pacifique, 71 403 touristes dans le Nord. Skieurs, étrangers, comme vous, Français, et qui admirent beaucoup notre pays.
Voilà, et ça, c'est l'âge d'or, hein? Les années 30, les années 40, 50. Puis là, ben, tout ça va commencer à décliner avec la construction de la route, hein? La 117, l'ancêtre de la 15, qui voit le jour durant quelle période, ça?
Ben, en fait, en 1940, on décide de faire une vraie route. Et là, déjà, on sent un premier ralentissement à ce moment-là, mais c'est pas encore majeur, OK? Le coup fatal va être en 1956. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée des autobus de provincial transport. Pourquoi? Parce que les routes sont déneigées maintenant l'hiver depuis 1940. La route 117, la 11 à l'époque, est déneigée à l'année.
Ah oui, on a tendance à l'oublier.
Il y a des gens qui commencent à voir. Ben oui, il y a des gens qui ont des chalets, qui ont des autos, évidemment, qui se disent, ben là, finalement, on va prendre le char, on va monter dans le nord.
Ben oui.
Alors, petit à petit, comme ça, il y a un changement d'habitude qui se fait. Et pour ceux qui n'avaient pas l'auto, l'autobus les emmenait aussi à peu près à la même place que les gares, donc dans les quarts de village. Alors là aussi, l'autobus va carrément supplanter le chemin de fer. Et en dedans, 4 ans seulement, toute la structure ferroviaire s'écroule. Je m'explique.
Ah, ouais.
Les trains de ski arrêtent en 55, autobus en 56. Première autoroute en 58 jusqu'à Sainte-Rose, en 60 jusqu'à Saint-Jérôme. C'est radical. Aussitôt que l'autoroute 15 arrive à Saint-Jérôme, c'est terminé. Les trains, au lieu d'avoir la panoplie de trains qu'on vient vous expliquer, on passe à des trains de fin de semaine, un train de vendredi soir puis un train de dimanche soir qui revient. Ça va végéter comme ça pendant plus de 15 ans, en fait. Puis là, ça nous amène au vrai déclin. c'est que le Canadien Pacifique avait aucun intérêt de faire fonctionner des trains de passagers. Malheureusement, au Canada, on a tardé très longtemps à nationaliser les chemins de fer pour passagers, via rail en l'occurrence. Mm-hmm. Et ce qui va se passer, ce produit-là, c'est que le Canadien Pacifique n'a jamais investi dans de l'équipement, n'a jamais investi dans la promotion nécessaire. En fait, pire, il demandait à chaque année à la Commission canadienne des transports d'abandonner la ligne.
Oui, oui, bien oui.
Et pour des raisons touristiques, la région disait non, c'est encore vital. Et on le maintenait en vie sous le respirateur artificiel en donnant pas de service. Et ça fait que petit à petit, ben moins on donne du service, moins il y a
des gens qui l'utilisent. C'est sûr, c'est un service vicieux, hein, puis tranquillement, voilà. Ben, le service a périclité parce qu'on disait pas assez rentable, mais c'est vrai qu'on le rendait pas tellement attrayant, ce train-là.
Voilà.
À la toute fin, un seul voyage par semaine. À ce sujet, ben tiens, on va écouter un reportage de Gilles Sirois, notre télé. C'est lors du dernier passage du petit train du Nord, 9 novembre 1981.
Un peu plus d'une centaine de gens seulement ont pu effectuer en train ce dernier voyage jusqu'à Nominingue. Via rail n'avait envoyé que deux wagons. Ironiquement, les autres ont dû prendre l'autocar qui, avec l'autoroute, a condamné l'œuvre du curé Labelle. Aujourd'hui, le petit train du Nord tient plus du folklore que de la réalité. Il n'y a plus qu'une seule liaison par semaine. Son déficit d'exploitation coûte annuellement près de 500 000 $ aux contribuables, ce qui a amené le ministre des Transports à l'éliminer.
Ça, nous comprenons que le gouvernement fédéral, à cause de sa situation financière, veuille faire des coupures budgétaires. Mais si Via Rail dépensait un peu plus pour sa promotion, améliorait sa ligne de chemin de fer, améliorait ses horaires, il nous semble qu'il y aurait moyen de rentabiliser la ligne.
Ben oui, c'est ça. Hein? Si on met pas d'argent, puis on offre un seul service par semaine, ça marche pas beaucoup. Donc 81, ben voilà, c'est terminé. Ça, c'est le dernier voyage. Assez ironique, hein? La plupart des gens qui étaient là, ben partent en autobus. Là, par la suite, la région va se mobiliser. Bon, on fait quoi avec le tracé? Il y aura la naissance de ce fameux parc linéaire, hein, cette piste cyclable, mais pas qu'une piste cyclable, piste de ski de fond, bien connue aujourd'hui, extrêmement populaire, qui connaît beaucoup de succès, puis qui a contribué aussi à l'essor touristique ou un nouvel élan de la région des Laurentides. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, est-ce que ce serait possible de ressusciter ce train-là ou non?
Je vous dis oui, si on avait voulu politiquement. Je pense qu'aujourd'hui, avec des stations touristiques comme Tremblant, on aurait probablement un train à l'heure ou un train aux deux heures qui ferait Tremblant à Montréal.
Ben oui, ce serait extraordinaire, là. Mais bon, ça s'est construit autour, hein, aussi. Pas sûr qu'on aurait de l'acceptabilité sociale. En tout cas, on n'en est pas là, mais il reste que ce fameux parc linéaire, il demeure extrêmement populaire. Mais oui, c'est une histoire fascinante, puis c'est lié, bien sûr, hein, c'est le cœur du développement des Laurentides. Région de villégiature, pays de lacs et de montagnes, et bien sûr, de ski. Mon invité, Claude Martel, géographe et historien, président de l'Institut de recherche sur l'histoire des chemins de fer du Québec. Fort intéressant. Merci beaucoup.
Merci.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Gauthier là-dessus. Bonne soirée. À une prochaine. Au revoir.
Tchou, 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 le train du Nord a perdu le Nord, rendu l'autre bord. Le train du Nord a perdu le Nord, et c'est pas moi qui va le blâmer. Non, non, non.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.